Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouli.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler de la Journée mondiale de la radio. La radio joue un rôle majeur, notamment en temps de conflit, et favorisant le dialogue entre parties prenantes et servant de support pour les initiatives de paix. Et cette année, la Journée mondiale de la radio a été célébrée sous le thème Dialogue, tolérance et paix. Nos invités sur ce plateau, Bandiou Goudanté, président de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, URTEL, Niaza Koulibaly, chef du centre de monitoring à la Haute Autorité de la communication, Thiona Mathieu Koné, journaliste à la retraite et chargé de cours à l'école de journalisme, Mahamadou Talata Meiga, psychologue et chargé de cours également à l'université de Bamako. Je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
Le Mali a été confronté à de nombreuses crises ces dernières années et les médias, notamment la radio, a joué un rôle important dans la résolution de ces problèmes. Certaines radios ont d'ailleurs conçu des émissions en vue de renforcer la cohésion sociale dans le pays. Toutefois, les avis sont partagés sur ces programmes. Je vous propose un micro-trottoir.
Souvent, on dit de n'importe quoi, de n'importe comment à la radio, d'intimider la population sous forme de situations de violence. Une radio ne doit pas faire ça. Et il doit sensibiliser la population à contribuer, non seulement du quartier et du pays. Mais maintenant, ça c'est devenu le contraire.
La radio, c'est le meilleur outil, surtout chez nous en Afrique ici, pour faire comprendre aux gens les enjeux, l'importance et les avantages de tel ou tel projet. La radio joue et jouera toujours un rôle irremplaçable.
Les radios ne font plus leur travail, ne fait qu'inciter les gens. On n'a pas l'information qu'il faut, on ne fait qu'y parler de politique.
La radio, pour moi, est l'un des moyens de communication les plus rustiques et qui continue à persister, qui continue à avoir toujours la même impact qu'avant, même si on n'écoute pas la radio. La radio joue un rôle très important parce que à travers la radio, nous avons tous le même message.
Les radios jouent beaucoup de rôles, comme les informations qui passent. Si vous donnez des bonnes informations, parce qu'il y a beaucoup de radios qui donnent des fausses informations.
Alors, nous ouvrons le débat avec vous, Monsieur Koné. Quelle analyse faites-vous de ce micro-trottoir?
Adéquat. Je pense que c'est assez divers comme avis. Et il pose le problème, effectivement, de la radio, pourquoi aujourd'hui et peut-être aussi pour hier. Parce que je note que tous reconnaissent d'abord que la radio est un meilleur outil d'information, de sensibilisation, d'instruction et peut-être de distraction. Je note aussi que c'est un outil irremplaçable. Effectivement, la radio est dans tous nos univers, et depuis la ville jusqu'au village, au hameau. Et que, de par sa simultanéité, chacun aujourd'hui peut écouter la radio qui s'est même miniaturisée. On est loin des gros transistors d'il y a quelques décennies. Et puis je note aussi que les uns les autres disent qu'il y a trop de politique. Ça voudrait dire qu'il faut que la radio soit plus constructive. Et pourquoi on ne l'est pas aujourd'hui? Pourquoi on l'était davantage hier? On pourra en débattre.
D'accord. Alors, et vous, Monsieur Meiga, les avis divergent, les avis des Bamako divergent, qu'en dites-vous?
En fait, c'est normal que tout le monde n'ait pas cette même lecture, cette même perception de l'usage, pour ne pas dire de l'utilité de la radio. Certainement parce que toutes les attentes ne sont pas comblées de part et d'autre pour ceux qui effectivement se plaignent, en tout cas de cette situation essentiellement. Mais c'est normal aussi parce que c'est vrai qu'on attend de la radio, parce que ceux qui l'ont vu, cette radio s'installer au Mali, ont vu véritablement un outil en réalité de combat démocratique et autres là. Donc on attend beaucoup plus à la radio aujourd'hui qu'elle ne puisse effectivement apporter aux populations. Et je pense que c'est normal parce qu'il y a beaucoup de besoins et ces besoins-là, certains de ces besoins-là attendent véritablement d'être comblés, surtout par les radios.
Votre réaction, M. Danté?
Je pense que ce qui est dit reflète carrément la réalité. Parce que d'un côté, ceux qui parlent de l'importance de la radio et de l'autre côté, les dérives que nous constatons parfois sont dénoncées. Et je crois que les auditeurs peuvent être meilleurs juges par rapport au contenu des programmes de radio.
D'accord. Alors, M. Koulibaly.
Merci bien. Vous me permettrez quand même d'adresser les remerciements de la Haute Autorité de la communication du Mali au studio Tamani d'abord pour l'initiative de l'organisation de ces débats qui va nous permettre de mettre encore le focus sur la réalité de la radio et peut-être pourquoi pas sur la réalité de la presse aujourd'hui, radio comme télévision au Mali actuellement. Donc merci au studio Tamani et à ses radios partenaires. Merci également à l'URTEL, je sais que vous y êtes pour quelque chose. Et cela dit, je suis heureux d'être sur ces plateaux pour deux raisons. La première, bien sûr, ça nous permet de recadrer certaines choses par rapport à la régulation. Et la deuxième, vous venez de m'offrir l'occasion de cette deuxième raison, notamment l'un des premiers intervenants qui a eu à dire la radio c'est n'importe quoi, on raconte n'importe quoi. Bon, ça quand même, ça nous met à l'aise. Parce que vous savez, quand on attaque, quand on s'adresse à quelqu'un qui est dans son tort aujourd'hui au Mali, tout de suite on crie un peu à l'injustice. On croit que vous lui en voulez personnellement, sans savoir l'acte qu'il vient de poser n'est pas en conformité avec, même n'allons pas jusqu'au texte, hein, n'est pas en conformité avec l'éthique, la morale du milieu. Alors, que ce soit les auditeurs qui, n'étant pas du domaine, qui nous renvoient à tous cette image, c'est une forte interpellation face à laquelle on ne peut plus être indifférent aujourd'hui. C'est ce que je peux dire pour l'instant.
D'accord. Et depuis la création de la première radio au Mali à nos jours, quel a été le rôle de cet instrument-là dans l'histoire du Mali?
Vous voulez dire la radio?
La radio, bien sûr.
Ben, vous savez, d'autres sont là pour parler de cela mieux que moi, mais je vais vous donner seulement certains repères. Si vous demandez aujourd'hui dans le milieu rural, notamment dans la région de Sikasso, jusqu'à une date récente, quel a été le rôle de la radio dans la mobilisation des paysans et dans leur information, et j'allais dire même leur formation dans les pratiques culturelles en ce qui concerne le coton, en ce qui concerne les autres productions de la zone, vous serez sidéré. Et j'ai eu à interviewer le colonel Youssouf Traoré, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il était à la communication chargée après du temps du Sémenel. C'est lui qui avait le département de la communication, de l'information à l'époque. Donc, il m'a dit en ce sens, si on avait fait une étude sur ce que la radio a pu apporter en termes de rendement, en termes de développement dans la zone, on serait sidéré. Et au-delà de Sikasso, vous avez également ces éléments. Si je quitte ce niveau, je viens à l'office du Niger. Également, des reflets nous sont souvent donnés par l'impact de la radio, ce que la radio a posé. Donc, je m'en arrête là, juste le monde rural, puisque le Mali est un pays à vocation agro-silvopastorale. Et dans ce domaine, déjà, si vous arrivez à booster déjà les activités, c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose. Le niveau également intellectuel a augmenté, parce que l'alphabétisation, allez-y de manière un peu à ces populations-là. Vous verrez ce que ça donne.
D'accord. Alors, Monsieur Koné, Monsieur Koulibaly vient de nous parler de quelques impacts que la radio a pu avoir sur la population, la communauté rurale. Et vous, qu'avez-vous à ajouter à cela?
Mais continuer dans ce sens pour dire que effectivement, de sa création des fins des années 50, c'est-à-dire la radio Soudan, qui est devenue Radio Mali, je pense qu'il y avait des objectifs assez clairs dans la programmation. Les émissions étaient dirigées vers tous les secteurs d'intérêt. D'abord, il fallait consulter la nation, la construction nationale acquise le 22 septembre 60, la radio a été un outil pour consolider, pour vraiment forger l'unité nationale. Un peuple, un but, une foi, la radio a joué un rôle d'instruction civique, que tous les citoyens soient avertis qu'ils appartiennent au même pays. Et ensuite, on a étendu le programme à l'éveil des consciences et à l'évolution dans tous les domaines, que ce soit le monde de l'agriculture, comme vient de l'évoquer mon confrère Niaza, le monde de la pêche, le monde de la santé, le monde, etc. Tous les domaines de préoccupation, de développement étaient cernés dans la programmation de Radio Mali. Donc il n'y a aucun doute que ce fut un outil, la radio fut un outil puissant de construction nationale dans tous les domaines.
Mais vous parlez au passé, fut et actuellement.
Ah ben, ça se discute puisqu'il y a la pluralité. Et tout à l'heure, dans votre micro-trottoir, certains ont dit que ça dit n'importe quoi. À l'époque, je ne pensais pas qu'on disait n'importe quoi.
D'accord. Alors, M. Maïga, M. Koné nous parle d'éveil de conscience.
En fait, je pense que en réalité, d'hier à aujourd'hui, la radio en fait a joué un rôle extrêmement important. Elle l'a fait en fait bien avant les indépendances avec la radio Soudan. Aujourd'hui, en fait, la radio, c'est vrai qu'elle est devenue beaucoup plus plurielle. Beaucoup plus plurielle, qui donne effectivement la possibilité aujourd'hui à l'auditeur de choisir en fait la voix qu'elle souhaiterait effectivement entendre, la voix qui répond effectivement à ses besoins et autres. Elle continue aujourd'hui encore, la radio, à jouer effectivement ce rôle-là. Et moi, je pense que, quoi que l'on dise, c'est extrêmement important. Important, probablement, bon, qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on a suffisamment de sources d'informations. Au-delà des radios que nous avons les télévisions et autres là. Il faut se rendre vraiment dans le pays profond, dans le Mali profond, pour se rendre compte que la radio, c'est un outil vraiment aujourd'hui incontournable. Et elle joue son rôle traditionnel d'éducation, en fait, citoyenne. Éveil de conscience, vraiment, elle joue son rôle d'éducation citoyenne. Elle joue au-delà de ce rôle-là. Nous sommes dans un contexte vraiment démocratique. La radio, tout comme les autres médias enfin de masse, joue vraiment ce rôle-là de chien de garde de la démocratie. Parce que, au-delà de cet aspect-là, c'est les radios qui donnent à entendre, qui donnent à écouter, qui donnent souvent à voir même les dérives, en fait, de ce processus-là pour que, effectivement, des correctifs, pour que, effectivement, les citoyens puissent apporter, lui, en fait, les correctifs nécessaires, mais aussi les gouvernants puissent, effectivement, apporter parce que ces gouvernants-là, ils écoutent la radio. Et forcément, ils écoutent la voix du peuple. Sinon, les voix du peuple. D'accord. Je pense que ces missions-là d'éveil citoyen aujourd'hui, pour nous, d'éveil de conscience, c'est vraiment ça, cette mission d'éducation citoyenne que la radio joue. Elle joue beaucoup d'autres, en fait, missions aujourd'hui. Et probablement, je ne parlerai pas, en fait, au passé simple, comme il le dit, parce que pour moi, ça continue, c'est une mission, en fait, qui continue. Peut-être que les formes divergent, mais la mission, elle continue. Et quoi que l'on dise, cette mission-là, elle est extrêmement importante.
D'accord. Alors, nous allons demander à M. Donté de nous édifier sur la radio d'avant et la radio de maintenant.
Bon, honnêtement, les réalités ne sont pas les mêmes. Les contextes ne sont pas non plus les mêmes. Hier, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de radios. La radio a été un outil qui a servi à renforcer les sentiments nationaux. Mais aujourd'hui, la radio continue à jouer un grand rôle pour la bonne et simple raison que la radio permet les expressions plurielles. Et aujourd'hui, je crois que du côté de la presse écrite, du côté des autres médias, en tout cas, la radio réussit à libérer la parole. Et dans les parties les plus reculées du pays, à travers des émissions interactives, à travers des interviews, tout le monde participe à la vie de la nation. Et chacun a son point de vue. Donc je pense que ces contradictions qui se font ne sont pas mauvaises en soi. Le plus important, c'est que les gens s'expriment selon les règles de l'art en donnant leur opinion. Et c'est ce qui fait la vitalité et la force de la démocratie malienne. Moi, je pense que s'il y a un outil qui permet de mesurer la vitalité démocratique du Mali, ce n'est ni le nombre de partis politiques, ni la participation aux élections, c'est en tout cas la possibilité que le média radio offre aux populations de donner leur avis sur les questions essentielles du pays.
D'accord. Alors, dialogue, tolérance, paix, c'est le choix de thème que cette huitième édition a fait. On aimerait comprendre pourquoi.
Bon, en réalité, moi je pense que c'est un thème mondial, mais ce thème, il est plus que d'actualité pour le Mali. Moi je crois que c'est a été choisi pour le Mali. Aujourd'hui, les questions essentielles pour l'ensemble des Maliens, c'est comment amener les populations, les acteurs politiques à dialoguer. Et tout le monde parle de dialogue inclusif, gouvernant et gouverné. Alors, tout le monde parle de paix, d'arrêt tant recherché par le peuple malien. Et tout le monde parle de tolérance. Tolérance étant l'acceptation de l'autre malgré les différences. Si ces trois éléments sont aujourd'hui réunis au Mali, la tolérance permettant la paix et la paix qui ne peut être possible que lorsqu'il y a un dialogue inclusif et réel, je pense que nous allons parler un autre Mali différent de la situation indescriptible que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
D'accord. Oui, M. Koné, vous voulez réagir ?
Ben oui, je pense qu'on ne pouvait trouver dans cette journée internationale de la radio meilleur thème pour l'espace malien. Et je me réfère à votre le slogan de la Fondation Hirondelle, s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Encore que Fouette Boigny, le sage de Côte d'Ivoire, donc de l'Afrique, aimait à dire que la paix, c'est d'abord un comportement. Mais encore que cela se sache, et la radio permet, comme l'a dit mon confrère Dante, qui en charge les radios plurielles du Mali à travers l'URTEL, comme il a si bien dit, je pense que le bonheur, on ne l'a vraiment, on ne l'apprécie que quand on l'a perdu. Nous avons perdu depuis quelques années, depuis en tout cas un certain temps, et cette grande liberté dans notre pays. Quand je dis liberté, c'est-à-dire qu'une partie du territoire a été occupée à un moment donné, donc par ces personnes ne peut en être fière. Et puis l'insécurité, etc., le djihadisme, l'intolérance. Je pense que répéter que le vivre ensemble exige que chacun se tolère, s'accepte dans notre diversité, qui au lieu d'être un obstacle, devient un atout pour l'harmonie du vivre ensemble dans ce pays si divers au plan racial, au plan ethnique et au plan linguistique et au plan spirituel. Je pense que la journée permet de s'interroger à travers des débats, à travers des émissions assez ciblées sur ces thèmes qui permettent de vivre en paix.
D'accord. Alors, Monsieur Koulibaly, oui, allez-y.
Merci. Justement, je reviens au choix du thème. Je crois que venant de l'UNESCO, c'est pas étonnant, parce que je dois dire, c'est l'Organisation des Nations Unies qui, par essence, se place en défenseur de la culture à travers le monde, la culture et l'éducation. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on dit le plus souvent, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout perdu, et c'est elle qui reste le dernier barreau pour essayer de donner une raison d'être à nos existences, pour ne pas dire à nos différentes cultures. Je m'en vais dire que ce thème venant de l'UNESCO, radio outil de dialogue, de tolérance et de paix, c'est pas étonnant. Si vous regardez, c'est vrai que chacun le ramène à soi, mais regardez le monde autour de vous. Ça convient parfaitement à l'ensemble de l'humanité actuellement. Vous prenez quelle que soit la zone du monde aujourd'hui, il y a problème, il y a violence, il y a guerre. Alors, il se trouve que, et dans ce contexte de guerre, de violence, on ne peut rien construire. Et vous savez, tous les jours, on dit développement durable, développement durable. Pour se développer, il faut être en paix. Donc, le choix du thème venant de l'UNESCO, c'est pas étonnant et c'est pertinent. C'est pas un hasard si chacun le ramène à soi, parce que tout le monde est en but à la violence aujourd'hui. Cela dit, Dante a dit quelque chose qui doit nous interpeller. C'est vrai, il a dit les radios, il y a la diversité. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas s'attendre aux radios, à la même conception des radios d'avant avec la multiplicité. C'est vrai, c'est cette diversité qui est souhaitée. Mais diversité ne veut pas dire désordre. Et si vous regardez actuellement le contexte malien, je m'excuse de le dire, on a atteint le niveau des deux ordres, où chacun croit qu'il doit venir à la radio ou qu'il crée sa radio pour faire n'importe quoi ou pour dire n'importe quoi. Donc, c'est à ce niveau qu'il y a un hic. Il n'y a pas longtemps, quand il y avait une information ou un événement, les gens vous demandaient est-ce que ça a été dit par la radio. Je ne précise pas davantage pour ne pas faire de la publicité. C'est pas pour rien quand on disait c'est, la radio ne l'a pas dit, ou suivez la radio, si la radio le dit, c'est confirmé. Mais aujourd'hui, même à ce niveau, les choses ne sont plus comme avant. Donc ça veut dire que il y a une interpellation qui est là. C'est vrai,
Que la haute autorité de la communication fait face à ça?
Vous savez, la haute autorité, je suis heureux de vous répondre, la haute autorité de la communication, c'est vrai, elle a pour rôle de réguler. Et dans cette régulation, il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez, c'est toute la société, c'est l'image même, la radio est à l'image de la société actuelle. Vous verrez tout ce que vous avez dans la vie quotidienne de tous les jours, vous verrez des symptômes à travers les radios. Donc la haute autorité a fait beaucoup de choses, beaucoup de choses, de sa création en 2014 à nos jours, et jusqu'à la prestation de ses membres, le collège, qui sont les 9 membres, elle a commencé d'abord par le commencement, notamment faire le soubassement. Le soubassement, c'est quoi? J'allais dire même l'autre pan du soubassement. Parce qu'en matière de régulation, il y a deux niveaux. Il y a le niveau d'abord des normes qui régissent la profession comme toute profession. Les avocats, vous prenez les avocats, vous prenez les juges. Chacune de ces professions est régie par des normes. Et ces normes tournent autour de l'éthique et la déontologie. Que les agents du domaine ou les membres du domaine sont censés connaître sans formation. Enfin, ceux qui sont passés par les mailles classiques sont censés connaître. Mais l'autre pan dont je parle, la législation, si vous ne balisez pas à ce niveau, il y a problème. Donc, il y a eu toute une panoplie, c'est Dante est là pour me confirmer ou l'infirmer, il y a eu toute une panoplie de textes, des cahiers des charges à la Convention, avec tout ce que cela s'ensuit. Et il a fallu du temps pour partager avec les responsables des associations professionnelles du milieu. Donc, on a privilégié le dialogue, aller à petits pas. C'est ce qui fait que les gens ne sentent pas encore ce que la HAC a posé. Comme on le dit en bambara, Sandikoro Woshido, on transpire sous la pluie et personne ne sait que vous transpirez. Merci.
D'accord. Alors, Monsieur Mega, Monsieur Koulibaly nous a parlé d'éthique et de déontologie. En matière d'éthique et de déontologie dans ce métier, diriez-vous que ces réglementations-là sont respectées par les journalistes maliens, plus précisément dans le domaine de la radio ?
En fait, avant de répondre à votre question, je voudrais juste recadrer un peu en fait la situation, parce que vous savez, les radios, en fait, c'est vrai que la première radio en fait privée a vu le jour en 88 avec la radio rurale en fait de Kai. À l'époque encore, c'était vraiment la radio nationale, la RTM, qui effectivement officiait essentiellement. Mais à partir de 91, il y a eu effectivement une explosion en réalité de l'environnement médiatique qui a fait que les journaux se sont installés, qui a fait des radios se sont installées. C'est des radios pour la plupart, communautaires, forcément qui n'utilisent pas des professionnels de l'information. Ça, c'est le premier aspect. Souvent, on n'en tient pas trop compte parce qu'il y a une certaine typologie des radios qui est dégagée et qui forcément ne renvoie pas à une utilisation professionnelle vraiment de ce média-là. En tout cas, quand on va dans le pays profond, ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est quoi ? C'est que pour la plupart de ceux qui sont venus, en fait, en tout cas pendant les premières heures vraiment de cette explosion en fait médiatique et autres-là, c'était souvent soit des jeunes diplômés qui étaient vraiment à la recherche de l'emploi, qui sont venus et qui vraiment se sont installés. Et beaucoup, en fait, d'entre ces jeunes diplômés avaient appris le métier vraiment de journaliste. Le tas, probablement, ça leur a été beaucoup plus facile parce qu'ils avaient déjà un background qui leur a permis d'assimiler effectivement ça. Mais dans le pays profond, c'est beaucoup plus vraiment des néos en fait alphabètes qui sont en fait là, sont restés parce que les diplômés, ils remontent en fait à la capitale pour chercher du travail. Ceux qui restent, ils sont obligés effectivement d'animer ces radios et forcément ils ne rentrent pas dans les standards professionnels. Ça, c'est un aspect en fait qui est une réalité. L'autre aspect, c'est que l'éthique et la déontologie, depuis 91, les premières journées ont été les préoccupations, effectivement, de même ceux qui étaient arrivés à l'époque, on les appelait, nous, en fait, on nous appelait vraiment ceux-là qui étaient, en fait, qui avaient intégré par effraction le truc-là. La préoccupation, c'était vraiment d'abord le respect des standards, donc le respect vraiment de l'éthique et de l'anthologie. Et il y a, en fait, comment est-ce qu'on appelle ça, là effectivement, à l'époque, en 1991, pendant les premières journées de l'information et de la communication, une déclaration des droits et des devoirs des journalistes qui avait été élaborée, qui, en fait, en 2000, va être relue pour, effectivement, donner le code d'éthique et de l'anthologie que nous avons aujourd'hui. Malheureusement, ce code-là, il existe bel et bien, mais il n'est pas, honnêtement parlant, il n'est vraiment pas en fait observé. Même dans les rédactions que l'on considère comme étant les plus professionnelles, très peu des confrères qui en fait travaillent au sein de ces...
Dans ce cas où se situent les responsabilités alors ?
Les responsabilités se situent à tous les niveaux. Ça se situe à tous les niveaux. Nous avons fait en fait une petite étude exploratoire pour voir d'abord au sein des différents organes, est-ce qu'il y a des organes qui ont leur charte propre ? Il n'y en a pas. Ça c'est un. De deux, nous avons en fait cherché à savoir si les jeunes qui arrivent, si effectivement ils sont encadrés par en fait les plus anciens, leur permettant de rester, de rentrer vraiment dans le cadre vraiment professionnel. Là aussi, à un certain moment, c'était le cas, mais aujourd'hui, ce n'est vraiment plus le cas. Les rédactions sont désorganisées au point où les comités de rédaction, les conseils de rédaction, les différentes instances qui doivent permettre l'encadrement des jeunes et autres là, n'existent plus. Troisième aspect, c'est qu'il y a une très grande mobilité au sein même de la corporation. C'est des jeunes qui arrivent pour juste 6 mois, 1 an, ils se font la main et ils partent. Donc il y a toujours en fait des nouvelles recrues qui forcément ne se sentent pas dans l'obligation d'intégrer vraiment le métier. Donc ils ne se sentent pas dans l'obligation vraiment de respecter ou d'apprendre vraiment en fait le métier conformément à ce qui est souhaité. Donc il y a vraiment des responsabilités et ces responsabilités-là, c'est vraiment à tous les niveaux.
Ok. Oui, Monsieur Koné voulait réagir.
Oui, vous savez, j'ai réagi parce que j'adhère pleinement à la défense de ce pluralisme radiophonique pour rejoindre mon confrère Dante. Et je suis également d'avis avec mon confrère, le professeur et spécialiste des questions de communication et en termes de psychologie. Et je suis également d'avis avec Niaza qui sonne l'alerte. Il sonne l'alerte en disant déontologie, mais vous savez, ça fait des décennies qu'on parle de tout ça pour dire, moi j'aime souvent dire aux étudiants, ne viens pas à la radio qui veut, mais qui peut. N'est pas médecin qui veut. Sinon on va tous être au bistouri et de façon maladroite. N'est pas mécanicien qui veut, mais qui peut. Et qui peut, c'est-à-dire qui accepte d'apprendre. Dans les années 90, tout juste après l'ouverture des événements, il y a une sentinelle morale, une grande sentinelle morale dans ce pays qui disait, attention, qui disait aux autorités et aux uns aux autres, aux pratiquants de la radio à l'époque et des journaux, au monde des médias, qui avait une tolérance en disant, écoutez, il faut éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et s'empressait d'ajouter, les premières zones d'un robinet longtemps maintenu fermé sont forcément jaunâtres. Mais est-ce qu'après 30 ans, nous allons continuer à servir une eau jaunâtre, donc impropre à la consommation, à nos auditeurs, lecteurs, ici, auditeurs surtout parce qu'il s'agit de la radio. Moi, je pense qu'on pose carrément le problème de la formation. Et c'est inévitable. De plus en plus, il y a des instituts nationaux ou bien privés, et des instituts au plan national ou privé, en tout cas chargés de la formation dans ce secteur. Je pense qu'il faut que la corporation accepte cet encadrement. Sinon, pendant longtemps, les dérives y seront. Et on a beau parler de déontologie, on a beau parler de choses. Et notre système manquera toujours de crédibilité dont a besoin tout organe de presse, notamment la radio, pour progresser et ratisser davantage d'auditeurs. Quand on écoute, forcément la radio on écoute, mais quand on ne suit pas, parce qu'on n'y croit pas, il y a un problème de formation, de crédibilité qu'il faut. Et seule la formation permettra de peaufiner et de traiter les divers sujets que nous abordons dans la radio.
D'accord. Alors, à Koutiala, la radio a donné la parole à deux parties en conflit dans une émission de débat. Ce dialogue a permis aux deux camps de clarifier leur position et de donner des informations qui ont contribué à décrisper la situation. Je vous propose ce temps robé de David Koulibaly.
5 blessés et 10 de motos calcinées. Tel fut le bilan des affrontements entre commerçants de bétail et autorités communales de Ndogonasso. C'était le 28 mai 2018 dans le cercle de Koutiala. Ces conflits qui prenaient l'allure d'une guerre entre communautés voisine a eu un dénouement heureux grâce à l'implication de la radio de proximité. À l'issue d'un débat organisé par la radio avec les deux parties en conflit, les protagonistes ont décidé de renoncer à la violence. Youssouf Niaré, préfet du cercle de Koutiala.
Les autorités communales de Ndogonasso et les commerçants de bétail étaient opposés à cause d'une décision d'augmentation des taxes sur le bétail au parc de Ndogonasso. Beaucoup de bonnes volontés ont contribué à apaiser le climat, mais l'alerte et l'implication de la radio Diamana de Koutiala ont permis d'éviter le pire. Les deux parties parties se sont expliquées dans une émission et ont compris qu'elles doivent se donner la main pour sauver l'intérêt général.
Dans la dite émission, les parties ont expliqué que c'est une incompréhension qui a occasionné cet incident qui n'arrange personne.
Maintenant, on est en train de comprendre.
Il faut que ça se comprenne. Quand vos représentants étaient présents à toutes les réunions que nous avons eues à faire concernant les taxes sur le bétail.
Après cette émission, nous chercherons des solutions pour qu'on puisse aller de l'avant. S'il plaît au bon Dieu.
C'était depuis Kuchala, David Koulibaly pour Studio Tamani.
Alors, cet élément nous expose un dénouement heureux. Mais dans le Mali actuel, est-ce que les programmes radiophoniques offerts à la population ont toujours un impact aussi positif?
Je pense que les gens s'accrochent parfois aux aspects négatifs de quelques cas isolés en ignorant ce que les radios font quotidiennement. À longueur de journée, la radio contribue à apaiser le cœur. À longueur de journée, la radio contribue à stabiliser les relations humaines entre les gens de la même localité. À longueur de journée, la radio contribue à renforcer les liens sociaux entre des populations d'une même localité. Bon, le plus souvent, c'est vrai que nous constatons des dérapages. Et pour aborder dans le sens du doyen, moi je pense que le problème n'est pas forcément un problème de formation. C'est aussi un problème de bonne foi. Parce que les plus grandes violations des règles d'éthique et de déontologie sont souvent commises par des professionnels. Donc moi je crois que ce qui est très important, nous avons traversé la période de transition, il n'y a plus d'anarchie parce que dès lors qu'on ne peut plus créer une radio comme on veut depuis la création de la Haute Autorité de la Communication, je crois que les efforts importants permettront désormais d'assainir le secteur petit à petit. Mais je pense que ce qui se passe de mauvais ne représente peut-être que le millième de ce qui se passe de bon à travers le pays. L'exemple que vous venez de donner est un cas parmi des centaines de cas que nous gérons à longueur de journée.
D'accord. Monsieur, oui, monsieur Koulibaly.
Bon, justement, j'allais sauter sur l'occasion, non pas que c'est chez moi, parce que je suis de Kuchala. Cette situation d'Anté, heureusement, vient de le dire, c'est parmi mille. Et je vais vous dire l'une des raisons de la popularité de la radio, justement, et surtout les radios de proximité. Parce qu'on a constaté que ce sont elles qui collent au vécu quotidien des populations. Parce que la seule radio mère avait tellement d'événements à couvrir, elle n'avait pas le temps de couvrir ses activités, de s'intéresser spécifiquement à certaines de ses activités. Or, ça tombe sur le quotidien des populations. Donc, voici l'une des raisons de la popularité des radios de proximité. Malheureusement, ça a été compris autrement. Mais ce que Dante vient de dire, je crois qu'il faut qu'il soit... je souhaiterais qu'il soit d'accord avec Tchouna. C'est-à-dire, c'est vrai, il n'y a pas que la formation. Vous avez touché un aspect qui est la non-application des textes au Mali. Quand c'est commis par des professionnels, vous savez pourquoi? Le professionnel se dit, puisque ça devient courant, tout le monde fait ce qu'il veut. Bon, je ne dis pas que c'est ce qui explique. Hein. Un professionnel se doit de respecter une ligne de conduite qui est en fait sa ligne de conduite acquise depuis sa formation. Il ne doit pas dévier. Mais vous savez, tout le monde n'est pas de cette nature. Les gens finissent par dévier. Donc c'est l'inapplication des textes aussi au Mali, il faut le dire, le non-respect des textes qui ouvre la voie à tout. Et quand je vous disais que la radio n'est que le reflet de la société, allez-y voir le nombre d'immeubles qui tombent. Allez-y voir ceux qui sont à la construction, les architectes qui sont à la base. Certains, les professionnels vous diront qu'ils n'étaient pas habilités à le faire. N'est pas architecte qui veut et n'a pas le chantier d'un certain type d'immeuble qui veut. Mais malheureusement, la recherche du gain aidant, tout le monde fait tout. Tout le monde se croit capable de faire tout. Et c'est ce qu'on constate dans le milieu de la presse. Merci.
Oui, monsieur Meiga.
Ok, bien. En fait, merci beaucoup. Je pense que cet élément que nous venons d'écouter illustre à suffisance, en fait, l'une des missions vraiment de la radio, c'est de créer, en fait, le lien, c'est de créer le lien social. Le rôle de la radio, ce n'est pas seulement que de critiquer en fait le pouvoir, ce n'est pas seulement que d'éduquer, c'est aussi de créer en fait le lien social. Et ça, c'est extrêmement important. Et nous savons aussi que dans ce cadre-là, il y a en fait effectivement une nouvelle approche qui permet à la radio en fait de jouer encore plus en fait ce rôle-là de médiateur en réalité, parce que c'est ainsi que l'on doit parler. C'est déjà en fait cette approche de média sensible en fait au conflit, comme on le dit, parce que ça permet déjà en fait de faire la radio autrement, de faire vraiment la radio autrement pour servir effectivement de plateau d'échange, mais aussi de plateau vraiment de communication, permettant aux différentes composantes de la société de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'expliquer, de pouvoir se faire comprendre pour mieux effectivement adopter vraiment des attitudes en fait positives les unes à l'égard des autres. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas les radios que moi j'écoute, les radios en fait que je suis, les radios dont je fais en fait le monitoring ou la veille, je me rends compte que ces radios-là sont en train d'intégrer effectivement cette approche-là, avec effectivement l'appui vraiment des partenaires qui sont sur le terrain et qui leur permet de jouer vraiment ce rôle-là et qui en fait aussi leur permet de redorer en fait un peu leur blason. Parce que quelqu'un dit que la radio dit n'importe quoi tout de suite, bon, c'est un auditeur parmi des millions et des millions d'auditeurs. Forcément, pour moi, ce n'est pas en fait un instrument de mesure aujourd'hui de l'impopularité de la radio. Elle est vraiment populaire, cette radio-là. Je suis sûr, à cet instant précis où nous sommes dans ce studio-là, qu'il y a des milliers d'auditeurs qui écoutent en fait cette émission-là à travers le pays, parce que je sais que c'est en direct, il y a des radios qui décrochent. Il y a des radios qui repassent en fait l'émission, qui est fortement écoutée. Et beaucoup d'autres émissions sont écoutées parce que c'est vraiment des émissions qui contribuent aujourd'hui à éclairer la lanterne des communautés, mais qui aident en fait la radio à jouer sa partition dans le cadre vraiment du retour de la paix, mais aussi dans le cadre vraiment de la reconstruction du tissu, du tissu en fait social. Et je pense que c'est un élément qui est extrêmement important. Souvent, sur le terrain, elles n'ont malheureusement pas les ressources matérielles nécessaires, elles n'ont pas les ressources humaines nécessaires pour en fait réaliser souvent des émissions ou produire vraiment des émissions vraiment de grande qualité permettant d'atteindre en fait. Mais je pense que chaque fois qu'elles en ont l'occasion, ces radios-là en fait s'empressent vraiment d'en profiter pour effectivement en tout cas rayonner encore plus, mais pour aider encore plus à rétablir vraiment cette paix-là.
Et à ce sujet, je vous propose de t'enrober de Mohamed Lamine Cissé depuis Gao.
La région de Gao compte de nos jours 33 radios. Celle-ci joue un rôle prépondérant. Kader Touré, directeur des radios à Gao.
Nous véhiculons des messages de paix, de cohésion sociale en rapport avec la situation que nous vivons dans le pays. Et nous donnons la voix à ceux-là qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer pour donner le point de vue au niveau local. La radio a été toujours utile.
Aujourd'hui, les FM constituent le seul moyen d'information et de rapprochement des populations, nous indique cette auditrice.
Nous écoutons très bien la radio car c'est elle qui nous fait comprendre et contribue à la cohésion sociale. La radio renforce la confiance mutuelle. C'est elle qui nous permet de nous réunir. Une fois réunis, même ceux qui sont en désaccord finissent par se comprendre et se pardonnent. Et cela suffit. Elle est d'une importance capitale pour nous.
De nombreuses ONG véhiculent des messages de paix sur les radios locales. Ousmane Maïga, coordinateur d'une ONG locale à Gao.
Les radios sont vraiment des acteurs clés de diffusion des messages en langue locale qui parlent de la cohésion sociale, de la tolérance religieuse. Et nous pensons que c'est des messages qui ont été bien assimilés. Nous avons des échos, la société civile, des gens qui nous appellent par rapport au contenu des messages.
Afin de renforcer la cohésion sociale, le renforcement des capacités des agents des radios devient une nécessité. Gao, Mohamed Lamine Cissé, Studio Tamani.
D'où la formation dont vous parlez.
Oui, je pense que vous avez offert deux cas merveilleux du rôle, n'est-ce pas, de la radio. Il n'y a même pas d'auditeur dans... C'est un climat de tension, ni de crise généralisée, pour ne pas dire de guerre. Et je pense que le premier élément qui avait trait aux éleveurs à Koutiala, la radio a servi à cimenter et à amener la compréhension mutuelle, c'est son rôle. Et effectivement, les radios sont nombreuses au Mali qui tentent cet exercice chaque fois que ça ne va pas. Encore que cela demande l'accès à l'information. Parfois, ce n'est pas facile. Et je tentais, mais je ne dirais pas le contraire. Combien de fois on attend? Et cela aussi, c'est à déplorer. Surtout l'accès à l'information du côté du public, des services publics. Ça, je pense qu'il faut qu'on l'intègre. Et un bon élément participe de cueillette de l'information et attend. Ensuite, bon, l'élément sur la cohésion sociale, le rôle des médias, des 33 radios de la zone de Gao, je pense que tout ça, c'est bienvenu. Et c'est tout ça qui participe du pluralisme radiophonique.
Mais oui, 33 radios, mais pensez-vous que toutes ces radios-là jouent pleinement leur rôle de vecteur de paix ?
Puisque je ne les écoute pas, je ne peux pas vous dire non. Mais je tire le chapeau, je dis...
En fait, moi, si vous le permettez, moi, je peux témoigner parce que j'ai, en fait, pendant une année, j'ai résidé effectivement à Gao. J'ai été vraiment un assidu, en fait, auditeur, vraiment, des différentes radios que je peux écouter parce que certaines ne sont pas accessibles. Il faut reconnaître aussi qu'il y a des limites, effectivement, à ces rôles-là que l'on demande aux radios de jouer. Limites, en fait, liées souvent à des facteurs techniques. Certaines radios, en fait, qui sont un peu plus éloignées vraiment de la cité, n'ont pas le flux en réalité électrique qui leur permet, en fait, de... Ils ont vraiment des périodes d'émission relativement, en fait, courtes, qui font que ce n'est pas, en fait, 24 heures sur 24 heures comme ici qu'on peut les écouter. C'est vraiment une période relativement courte de la journée, en fait, que, effectivement, cela est. Mais il y a un tel engouement pour les radios de la part des auditeurs parce que vous savez à Bamako c'est le même phénomène en fait qu'il y a dès que quelqu'un en fait intervient sur une radio immédiatement il y a plein de gens qui décrochent pour dire, on a entendu, on vous a entendu sur telle ou telle radio ce qui fait que les populations elles-mêmes ont envie de s'écouter et les radios leur permettent en fait leur permettent effectivement en tout cas de se faire écouter et forcément de s'intéresser encore plus vraiment non pas leur ego mais d'être satisfait du fait que au moins leur voix a été entendue ne serait-ce que par en fait leur environnement en fait immédiat. Donc ça incite en fait beaucoup de ces auditeurs non seulement à aller vers les radios mais aussi cette incitation en fait oblige les radios à se mettre vraiment au pas par rapport aux demandes, par rapport à bien d'autres choses. Les radios qui ne permettent pas de le faire, forcément c'est des radios qui sont marginalisées. À Gao, je connais certaines radios qui ne sont pas du tout écoutées parce que simplement il y a des attitudes que les animateurs ou simplement en tout cas les professionnels de cette radio-là adoptent vis-à-vis des auditeurs, vis-à-vis vraiment des trucs et autres là. Donc je pense que les auteurs eux-mêmes obligent les radios à aller dans ce contexte-là, vraiment dans ce sens.
Dire, justement, oui. Il m'a coupé un peu le père. Je vais dire que, non, il a donné le cas édifiant de Gao, où il a beaucoup séjourné, mais je vais dire que tant mieux pour les radios qui, sous forme de réseau, maillent le pays. Parce que nous sommes à Bamako, nous écoutons Radio Tamani, qui a beaucoup de correspondants à l'intérieur du Mali, et qui font, parce que nous à Bamako, hein, la plus de la moitié de la population de Bamako vient de quelque part, des différentes régions. Donc ce maillage permet de suivre l'actualité et de nous intéresser aux événements majeurs. Donc je pense que c'est un cas, et les cas que vous avez aujourd'hui exposés à notre audition, je pense qu'à notre écoute, sont merveilleux. C'est un rôle prépondérant de la radio, surtout en période de crise.
Malheureusement, le temps nous rattrape. Oui, M. Koulibaly.
Le temps, c'est comment dire, le statut magnifique de la radio n'est pas en doute, nullement. Et on le constate tous les jours. La radio est fédérateur des énergies. Elle permet facilement d'asseoir le vivre ensemble. Mais ce qui est en doute, c'est les servants qui dévient souvent. Et je m'en vais préciser un aspect. Je crois que je n'ai pas été compris quand j'ai parlé de désordre. Et non seulement je l'ai dit en régulateur qui reçoit tous les jours des récriminations des populations, des usagers. Ce matin, on a dit dans la salle, lors du lancement, de la cérémonie de lancement de cette journée, qu'il y avait plus de 400 radios. Et c'est le secrétaire général du ministère de l'économie numérique et de la communication qui l'a dit. 400 radios au Mali. Vous pensez que toutes ces 400 radios sont en régularité avec la haute autorité?
Et que comptez-vous faire face à tout cela?
Le temps nous rattrape. Oui. Elles s'ébrouillent entre elles. Ça veut dire qu'elles ne sont pas installées d'abord selon les normes. Et elles disent des choses qui ne sont pas en conformité avec la morale d'abord.
D'accord. Oui, allez-y, M. Nanté.
En réalité, 400 radios au Mali, c'est très peu. Au Mali, nous avons 703 communes et chaque commune a droit à une radio. Parce que la radio, c'est l'enseignant, la radio, c'est le médecin, la radio, c'est l'ingénieur d'agriculture et c'est la radio qui a autre chose que ce que nous voyons ou ce que nous pouvons lui attribuer. La radio accompagne le développement. 400 radios, c'est peu. Maintenant, ces radios qui sont appelées à être régulées, et cette régulation, naturellement, c'est la radio qui l'ont demandé. Donc ici aujourd'hui avec le numérique, on n'a pas besoin de brouiller la fréquence de quelqu'un si rien va s'installer à sa place. Mais je pense que 400 radios, c'est pas beaucoup de radios, c'est D'accord. peu par rapport aux
Merci.
Besoins.
Merci beaucoup Monsieur Danté et Monsieur Koné. Malheureusement le temps nous rattrape en 30 secondes. Quel est le message que vous avez à donner à la nouvelle génération?
La nouvelle génération, c'est de savoir que c'est passionnant le métier du journaliste, de surcroît le métier du journaliste radio. Et comme tout métier, il s'apprend. Et là, c'est pratique. Hein, et il faut les respecter si on veut être crédible et continuer à en profiter et à faire profiter la société malienne de la diversité radiophonique.
D'accord. Et vous, M. Meïga, avant de boucler ce débat,
Je vais y aller très vite. La radio, ce n'est pas seulement une voix qui berce effectivement l'auditeur. La radio, en fait, c'est l'information. Et l'information, aujourd'hui, requiert vraiment d'en être professionnel. Il faut d'abord être vraiment un professionnel d'information pour pouvoir faire de la radio. La voix n'est que juste ce qui permet effectivement d'accompagner dans un canal approprié vraiment cette information. Donc, recommande juste aux jeunes d'accepter vraiment d'aller à l'école. Quand je dis à l'école, d'abord qu'eux acceptent de se former, ensuite aller vers les autres pour pouvoir effectivement profiter de leur expérience.
Merci beaucoup et cela met fin à ce débat sur la journée mondiale de la radio. Un grand merci à nos invités. Bandjougou Danté, président de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, URTEL. Niazza Koulibaly, chef du centre de monitoring à la Haute Autorité de la Communication. Thiona Mathieu Koné, journaliste à la retraite et chargé de cours à l'école de journalisme. Mahamadou Talata Meïga, psychologue spécialisé dans la communication et chargé de cours à l'université de Bamako. C'est une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Nundjiré, la régie doit être assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de studio Tamani.
Le grand dialogue,
Sigi Kafoba,
le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Beri, Haloud Maoudi,
Chienne Beri, Sigi Kafoba.